voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
C'était il y a 3 ans et demi. Partout en France, un peuple se soulevait, protestant tout d'abord contre l'augmentation du prix des carburants liée à une taxe écologique. Portant les gilets jaunes fluo obligatoires dans les coffres des voitures, ils se mettaient à occuper les ronds-points des campagnes et centres périurbains, puis les rues des grandes villes tous les samedis. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Qu'est devenu ce mouvement dit des gilets jaunes, prémisse d'un renouveau démocratique ou symptôme d'une démocratie malade, avatar d'une révolution populiste ou réveil populaire? Pendant 3 ans et demi, on a vu beaucoup de reportages télévisés, quelques films, dont le documentaire de David Dufresne, Un peuple qui se tient sage, on en avait parlé ici même, film sur les violences policières et la politique de maintien de l'ordre. Et là, sort sur les écrans français Un peuple d'Emmanuel Gras. Bonjour Emmanuel Gras.
Bonjour.
En 2017, vous veniez nous parler de Makala, un extraordinaire portrait d'un villageois congolais s'échinant à fabriquer et vendre du charbon de bois, un film documentaire sacré du Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser, donc un an plus tard, à partir de la fin 2018, cette fois à un groupe, les Gilets jaunes de Chartres, cette ville très proche de Paris?
D'abord, j'avais envie de faire un film sur la France. En fait, justement, après avoir fait Makala, qui se passe en République démocratique du Congo, je me suis dit qu'il fallait que je tourne mon regard sur mon pays, parce que parfois, on a plus de mal à regarder proche de soi que plus loin. Et je sentais, comme tout le monde, qu'il y avait des tensions sociales très fortes, que ça s'augmentait avec le début du quinquennat du président Macron. Et donc voilà, donc j'étais comme prêt en fait. Et quand il y a eu l'appel du 17 novembre, ça ne m'a pas fait réagir tout de suite. Par contre, dès la semaine d'après, je suis allé à Paris dans les manifestations parisiennes, donc celles du 24 décembre et du 1er...
Du 24 novembre.
Du 24 novembre, pardon, et du 1er décembre. Et j'ai vu en fait à ce moment-là qu'il se passait quelque chose d'important parce que la population qui venait n'était pas du tout la population habituelle des manifestations parisiennes. Ça venait de province. Les gens parlaient de monter sur Paris, monter sur la capitale. Et le fait d'aller directement sur les Champs-Élysées, d'y monter des barricades et d'avoir vraiment un côté très virulent, en fait, on sentait une colère très, très forte. Ça m'a donné envie de comprendre, en fait. Et comme je suis documentariste, j'utilise l'excuse, disons, du film pour aller à la rencontre des gens. Et on m'a indiqué qu'il y avait un rond-point à côté de Chartres qui était occupé. J'y suis allé.
Votre film, Emmanuel Gras, Un peuple, débute par une séquence sonore sur fond noir.
Monsieur,
c'est vous qui gérez le pays.
Pourquoi toujours au pluriste? Pourquoi pas au foyer modeste?
Attendez.
On était heureux en France.
On devient malheureux, monsieur le président. On devient malheureux. On n'arrive même plus à vivre. On ne peut plus gâter nos enfants, nos petits-enfants. On ne peut plus aller en vacances.
Vous avez travaillé 40 ans.
Vous trouvez normal qu'on travaille? Pourquoi vous nous massacrez? Pourquoi nous?
Non, je massacre.
À peine 2000 avec mon mari.
Ça, Emmanuel Gras, donc c'est Emmanuel Macron qu'on entend.
Oui, tout à fait, oui.
C'est pas avec les Gilets jaunes de Chartres, ça vous
Non, en fait, ça j'ai repris en fait. Il était en visite, je sais plus dans quelle ville, et en fait, c'était donc avant l'appel du 17 novembre. Enfin, il existait déjà, et voilà, c'est deux dames en fait qui l'interpellent et qui lui disent que ça va mal, quoi. Et on sent bien déjà dans ce premier échange en fait que à la fois il y a la volonté de s'adresser directement. Enfin, on voit bien qu'on est en France avec un régime présidentiel On s'adresse au président comme étant celui qui doit résoudre les problèmes. Ça dit quelque chose quand même sur notre démocratie et sur l'espèce de tension. Au départ, il y avait un espoir aussi. Il n'y avait pas que de la colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il y avait aussi un espoir. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu introduire le film par ça, parce que c'est quand même le prémisse à ce qui se passe après.
Et puis, Emmanuel Gras, je commence vraiment juste avec le commentaire de 4 ou 5 premières minutes de votre film, parce que c'est un parti pris formel assez fort. Donc on entend cette séquence fond noir, il y a un cut, et votre film débute avec des images et cette chanson de Nino Ferrer qu'on va se faire le plaisir d'écouter quand même sur quelques minutes.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées, sans sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Et les nids des oiseaux, on allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir avec
Emmanuel Gras, Nino Ferrer, et sur cette chanson de Nino Ferrer, ce qu'on voit, c'est des travelling en fait. On commence par un travelling arrière sur une rue de Chartres, puis un travelling avant, des travelling latéraux. On passe en fait, on a l'impression qu'on quitte la ville, on passe devant les cités, puis on va arriver au rond-point. Et là, il y a un mouvement ascendant qui va montrer aussi la campagne au loin.
Oui.
C'est une manière de faire la topographie.
Oui, parce que en fait, je me suis rendu compte que c'était. Je voulais commencer par ça parce que le mouvement des Gilets jaunes est d'abord un mouvement des périphéries urbaines, donc entre la ruralité et les centres-villes. C'est pour ça qu'en fait, le premier plan, c'est un plan où on voit la cathédrale de Chartres et on s'en éloigne pour arriver comme ça dans les communes avoisinantes de Chartres qui sont collées en fait et où il y a les pavillons, les cités et les hypermarchés. Et en fait, pour moi, c'était à la fois de faire la topographie, de montrer les lieux, en fait, d'où viennent les Gilets jaunes, et aussi, en fait, à travers la chanson, parce que là, on a entendu le début, mais ensuite, il dit, bon, c'est plus la maison près de la fontaine, c'est la maison près des HLM, et il parle de l'arrivée des supermarchés, de l'essence, de la guerre, de la société. Et en fait, c'est à la fois aussi un endroit géographique et un endroit dans le temps. C'est-à-dire que pour moi, les Gilets jaunes, en fait, sont issus du monde créé à partir des années 70, du monde mondialisé, libéral, avec aussi une dégradation depuis 30 ans des conditions de vie. Et donc, en fait, c'est un peu le progrès qu'on nous a vendu comme étant celui qui allait mettre tout le monde bien, si on veut. Tout le monde fait du tertiaire, il n'y a plus de production en France, on l'a vu avec les masques. Et en fait, il reste une population qui, elle, est précarisée, une population, je dirais, prolétaire, qui est précarisée et qui, on a beau ne plus en parler dans les médias, en tout cas dans la politique, eh ben, elle existe, elle est humaine et c'est elle qui est venue réoccuper les ronds-points qui étaient des lieux qui n'étaient pas du tout faits pour les êtres humains.
Et elle souffre, hein, cette population. Et vous intitulez le film « Un peuple », non « Le peuple ». Alors, le 1 a son importance.
Le 1 a son importance.
Et d'ailleurs, le titre s'incruste sur l'arc de triomphe.
Ah, vous l'avez remarqué.
Ce qui a un double sens, parce qu'effectivement, on pense que tout s'est passé là, qu'il y a eu ces déprédations, qu'il y a eu tellement de retentissements médiatiques. Mais en même temps, l'arc de triomphe, ça a aussi un sens symboliquement.
Exactement. Je suis content que vous l'ayez remarqué, parce que ce n'est pas tout le monde qui le voit. En effet, il y a marqué un peuple et comme ça, on voit l'arc de triomphe derrière, donc qui est le symbole, disons, de la nation, même la nation un peu conquérante.
C'est presque une interrogation.
Oui, c'est ça. Et aussi, donc j'ai choisi de l'appeler un peuple et non pas le peuple, ou non, parce que, en fait, il y avait quelque chose de très fort dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'eux se définissaient comme le peuple. Le peuple, en fait, en opposition à l'élite, donc le peuple dans le sens populaire. Mais il y a une autre acception du terme qui est le peuple, ben, c'est la population française, les citoyens français. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on leur opposait, c'était ça, c'était de dire, mais non, vous ne représentez pas tout le peuple, il y a de tout. Et moi, j'ai voulu, du coup, non pas faire un jugement de Salomon, mais en tout cas dire, c'est un peuple parce qu'ils se définissent, en fait, finalement, les Gilets jaunes, en se rassemblant, ont fait peuple. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très puissant, en fait, pour tous ces hommes et ces femmes qui se sont retrouvés comme ça sur les ronds-points, c'est qu'ils se retrouvaient non pas sur nécessairement une culture ou des valeurs communes, mais sur un vécu profondément profondément ancrés dans leur corps, dans leur histoire. Du coup, en fait, en se retrouvant, ils retrouvaient une solidarité qui avait disparu, puisque voilà, le monde du travail atomisé, ce que je disais sur les banlieues qui sont pas faites pour créer du lien social. Et là, en fait, en se retrouvant, ils retrouvaient une identité très forte de gilets jaunes. Et dans ce sens-là, un peu comme les classes sociales, finalement, existent à partir du moment où elles sont conscientes d'elles-mêmes, eh ben, les gilets jaunes ont fait peuple en devenant conscients d'eux-mêmes.
Quand tu es vraiment dans la misère, tu en parles à personne. Et combien n'osent même pas franchir cette porte de la honte. Et c'est ça qui est beau aussi dans les gilets jaunes, c'est que le 17 novembre, on s'est aperçu qu'on n'était plus seul, quoi. Avoir cette honte. Et du coup, on n'a plus honte. Et du coup, on est ensemble. Et on a cette force.
Je crois que c'est Agnès, c'est ça, qui parle.
Oui, là. Tout à fait, oui.
Donc, elle dit exactement ce que vous venez de dire. En fait, on n'a plus honte et on s'est reconnus entre nous. Et pour vous, dans votre démarche, Emmanuel Gras, peut-être un paradoxe, ou alors, voilà, que vous avez résolu ainsi, mais à filmer un groupe, mais en même temps à vouloir détacher du groupe quelques personnes, des personnages, en l'occurrence Agnès, mais il y a aussi Benoît qui est porte-parole.
Oui, Alan. Il y a Benoît, Alan qui est un jeune qui lui filme, en fait, devient commentateur des manifestations, et Nathalie qui était plus discrète au début et qui a pris de l'importance au cours du film. En fait, en effet, c'est pas nécessairement un paradoxe, mais c'est une vraie complexité, c'est-à-dire de filmer un collectif, puisque au début, voilà, moi j'ai rencontré un groupe et j'ai compris que je voulais les filmer dans la durée, finalement 6 mois quand même, pour montrer l'évolution de ce collectif. Et en plus de ça, ils avaient une volonté qu'ils ont toujours affirmée de ne pas avoir de chef et d'être très horizontaux. C'est-à-dire qu'une des idées de base des Gilets jaunes, c'était que chacun est libre en fait de faire ce qu'il veut. Donc il y avait un côté comme ça. Donc le choix est complexe parce qu'on se dit, mais alors si c'est le collectif, il ne faut pas qu'il y ait des figures qui émergent. Et en même temps, moi je me suis rendu compte que une des complexités en fait, c'était que un collectif en fait, il a obligatoirement besoin d'organisation et donc de gens qui s'investissent plus que d'autres, qui vont se mettre à être donc les coordinateurs ou les porte-paroles nécessairement, puisque ils allaient rencontrer d'autres groupes d'abord au niveau du département, puis au niveau de la région et finalement au niveau même du pays, puisqu'il y a eu des assemblées. Et donc, en fait, ça pose la question de la démocratie à l'intérieur d'un groupe, de la démocratie, finalement, de la représentation. Et
Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que justement, on voit qu'ils sont chacun très divers. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une scène où ils s'engueulent un peu parce qu'ils veulent plus d'argent, bien sûr. Et en même temps, il y a une dame, je crois, ou peut-être Alan, qui dit « Oui, mais ça sert à quoi d'avoir plus d'argent si on va le dépenser au McDo ?» Oui. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas un keyword qui serait « misère ». Et qu'au contraire, chacun a une trajectoire de vie, une expérience très différente. Et que c'est ça qui rend le collectif difficile à monter, enfin, si on parle d'une démocratie, d'une expérience démocratique.
Alors, moi, je dirais que, justement, cette scène-là, c'est pas une scène où ils s'engueulent, là, c'est une scène comme ça où ils parlent, c'est plutôt une scène, en fait, où il y a quelqu'un qui pousse la réflexion plus loin. Et ce que j'ai voulu montrer dans le film, c'est justement cette espèce d'intelligence collective où, quand même, au départ, ils se retrouvent sur des revendications, ils disaient sur le pouvoir d'achat. Mais donc, ça peut concerner l'essence, ça peut concerner plein de choses. Mais il y avait quand même des choses qu'on retrouvait tout le temps, c'était pouvoir vivre de son travail, avoir une meilleure répartition des richesses, puisqu'il y avait vraiment une grande colère vis-à-vis des élites du pays, donc avec le sentiment que certains s'enrichissent pendant que eux s'appauvrissent. Et ensuite, et ça c'est vraiment l'originalité du mouvement, la volonté d'avoir une présence, d'avoir un pouvoir de vote citoyen. C'est pour ça que le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, est devenu un peu le mot d'ordre. Disons que ce n'était pas simplement des revendications de type social, économique, c'était aussi des revendications politiques. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Mais pour moi, c'était nécessaire. Et parce que quand on veut repenser la société, finalement, on est obligé d'aborder énormément de choses différentes.
Putain, vous voyez, regarde les cailloux, je vais en prendre sur la gueule à force. Mais moi, je justifie pas, je vous fais montrer sur le terrain. On dit pas, je suis pro gilet jaune ou pro. Voilà, je viens prendre un caillou dans le cou. Je vous fais montrer. Voilà. Mais ça part en cacahuète. Et voilà, ça part en cacahuète. Tu vois bien là, regarde Macron. Les gens, ils sont encore dans la rue. Avec ton grand débat, ils s'en foutent de ton grand débat. Ils savent que c'est un enfumage.
Là, c'est un peu au début du film, hein, Emmanuel Gras, donc de votre film Un Peuple. C'est, je crois que c'est Alan, hein, c'est ça. Il filme, il est en live avec son portable. Et on sent qu'il est après ça va dégénérer, il va être un peu désespéré et il y aura d'autres moments dans le film même très chaud, même pour vous en fait, on se dit avec des mouvements très chaotiques sur les Champs-Élysées, mais on voit effectivement comment ça s'enclenche cette dynamique avec la répression policière.
Oui, alors c'est vrai que j'ai la chance d'une certaine manière que le groupe de Chartres, moi au départ j'étais allé pour filmer donc un groupe parce que je voyais que c'était un mouvement donc provincial et qui se passait au niveau local. Et en fait, il se trouve que ce groupe-là, comme ils habitent à une heure de Paris en voiture ou en train, en fait, ils allaient finalement très régulièrement, presque tous les samedis, manifester à Paris. Donc en fait, il y a la dimension très locale du mouvement, mais aussi ces manifestations parisiennes qui, pour eux, qui étaient souvent des primo-manifestants, en fait, ça a été la confrontation avec une répression très brutale, vraiment, puisqu'il y a eu énormément de blessés. Et pour eux, ça a été un choc. Et en même temps, eux-mêmes, au départ, enfin, moi, je ne cache pas l'aspect insurrectionnel, au contraire du mouvement au début. Enfin, c'était vraiment l'expression d'une colère avec de la casse, etc., pour moi, qui appartient à tout mouvement social. Mais il se trouve que le groupe que je suivais était très pacifiste. Donc, en fait, ils se retrouvaient embarqués dans un engrenage de violence comme ça, qu'ils déploraient. Et en même temps, on voit aussi dans les discussions, en fait, entre eux, que... Eh bien, s'il n'y avait pas de casse, eh ben, médiatiquement, personne n'en aurait parlé. Donc, il y a vraiment des problématiques qui se posent, quoi. À quel moment, en fait, ça devient contre-productif pour le mouvement ?
Et à un moment, plus vers la fin du film, vous êtes dans la foule, refoulée par les CRS, vous continuez à filmer. J'imagine la caméra à bout de bras. Oui. Là, y a quand même un risque physique à ce niveau-là.
Moi, mon idée, c'était j'y allais dans les mêmes conditions que les gilets jaunes que j'étais en train de filmer. Donc, en fait, j'y allais sans protection. J'avais un masque. Alors, des fois, j'avais un masque, mais des fois, on me le prenait, puisque, en fait, à un moment donné, ils ont interdit de porter des masques pour se protéger des gaz lacrymo. Même chose pour les lunettes. En fait, quand j'ai respiré énormément de gaz lacrymogène, ça c'est sûr. Donc, je ne voulais pas non plus ressembler, et c'est sans critiquer du tout la presse, mais c'est-à-dire que je voyais beaucoup de gens qui avaient des casques, en fait, qui étaient un peu équipés de manière à se protéger. C'est normal, c'est leur travail. Mais moi, disons qu'il y avait je voulais être physiquement au même endroit et dans les mêmes conditions que les gens que j'étais en train de filmer. Donc, oui, il y avait une part de risque et peut-être d'inconscience.
Alors, je me présente, je m'appelle Akif Levé. En ce qui me concerne, moi, je travaille depuis maintenant 10 ans sur tout ce qui est intelligence collective, démocratie directe, ce genre de choses. Et évidemment, j'ai vu arriver le RIC avec grand intérêt, puisque le RIC, ça va impliquer que les citoyens vont devoir surveiller les lois qui passent au gouvernement. Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils élèvent leur niveau de conscience, qu'ils élèvent leur niveau d'éducation, qu'ils élèvent leur niveau de discussion. Donc ce sont autant de devoirs. Donc à ceux qui reprochent que le RIC serait un danger pour la démocratie, dixit notre président, c'est l'inverse qui va se passer. Et c'est l'inverse que l'on observe dans d'autres pays. Il faut savoir que les pays où le RIC est en place... l'abstention diminue.
Alors Emmanuel Gras, on l'a un peu évoqué précédemment, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, c'est ça ?
Oui.
C'est l'une des grandes revendications des Gilets jaunes. Donc, je rappelle, c'est quand même un mouvement parti d'une taxe sur les carburants, mais qui a effectivement mis en évidence les défaillances de la démocratie représentative. Et ce qu'on voit dans votre film, c'est comment des personnes qui, a priori, sont très très loin de tout ça, reprennent un enthousiasme, presque une excitation à... inventer presque ex nihilo des formes de revendications politiques.
Oui, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est toujours aussi actuel. Enfin, d'une part, parce qu'il y avait les raisons économiques qui ont créé le mouvement, en fait, sont toujours là. Mais aussi, on voit bien qu'il y a une abstention énorme, que là, pour les prochaines élections, ça peut être encore très important. Et les Gilets jaunes, la plupart étaient, disons... ils se disaient apolitiques, mais en fait, c'est que beaucoup, en fait, étaient des gens qui ne votaient plus. Et pourquoi ils ne votaient plus ? Parce qu'ils avaient le sentiment qu'en fait, le seul choix qui leur était proposé, c'était d'élire des gens qui n'avaient pas de mandat, qui pouvaient changer de mandat et qui, en fait, ont tous les pouvoirs pendant 5 ans. Et ça, ça a créé énormément de frustration, le sentiment d'être un citoyen sans possibilité d'action sur le cours des choses. Et donc, ce RIC-là qui est arrivé, moi-même, j'en avais pas vraiment entendu parler avant décembre 2018. Et en fait, beaucoup de Gilets jaunes, en fait, n'en avaient pas entendu parler. Et en fait... S'il est présent dans le film, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il était vraiment, c'était vraiment en effet devenu un mot d'ordre fédérateur et qui posait la question de la présence de, en tant que citoyen dans le pays. Et moi, en m'y penchant en fait, au cours de ces différents mois, je me suis rendu compte de l'intérêt de cet outil démocratique qui amène le fait de mettre de la démocratie directe en fait, dans la démocratie représentative.
Mais en fait, ce que je trouve extraordinaire dans votre film, c'est presque structuré comme une tragédie, c'est-à-dire que ça commence justement par la révolte, ensuite il y a l'espoir, et puis après tout retombe, il y a une sorte d'infinie tristesse, et il y a presque un souffle épique dans votre film. Est-ce que vous l'avez conçu comme ça ou c'est venu au montage ?
Alors, je l'ai ressenti comme ça, en fait, quand j'ai tourné, et j'étais pas sûr de réussir c'est là où la différence existe entre le fait de faire un compte-rendu d'un mouvement et de faire un film de cinéma. C'est que moi, j'essaye de non pas de retranscrire ce que j'ai juste vu, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et ce souffle épique et cette tragédie dont vous parlez, c'est quelque chose que j'ai toujours... Donc, tout était toujours, en fait, à la fois grandiose et possiblement ébranque-ballant. Et cet espoir qui a existé, en fait, de changer la société française paraissait en même temps génial et en même temps impossible, en fait. Et donc, cette part tragique et épique, en effet, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu faire exister dans le film, à la fois dans la construction dont vous parlez, avec une montée et en même temps un écrasement à un moment donné, puisque un écrasement qui est en partie dû à la répression brutale policière. Et sur le fait que, oui, ça ne peut pas, en fait, un changement de société ne peut pas exister comme ça en si peu de temps. Entre les rêves qu'ils pouvaient avoir et la confrontation avec aussi la réalité politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on les voit aller à une conférence de La République En Marche, et là, je pense qu'on ressent en fait que, en réalité, ça ne va pas être facile.
Oui, c'est ça. Il y a eu pas mal de films quand même réalisés sur les Gilets jaunes. Il y a eu le film de Dufresne, donc c'était vraiment centré sur la violence. Il y a eu le film de Ruffin, qui était plutôt centré sur la misère et les dégâts de décennies de politique de droite, selon lui. Le vôtre, il est vraiment centré sur les affects et les émotions.
Oui, parce que moi, c'est ça qui m'a touché, en fait, vraiment. C'est des êtres humains, en fait. Pour moi, la politique, alors je ne sais pas, c'est peut-être aussi un point de vue politique à la fin, c'est que la politique, elle c'est pas des idées qui circulent. Et surtout quand c'est la politique qui touche des gens qui sont populaires. C'est-à-dire que des décisions politiques comme la réforme de la loi travail, en fait, elle a eu des conséquences de précarisation, de chômage pour tous ces gens. Et en fait, d'une certaine manière, la révolte des Gilets jaunes, elle est directement liée à des réformes plus ou moins récentes qui ont abîmé, en fait, le travail. Et sauf que la différence par rapport à des milieux plus favorisés, c'est que ça s'incarne dans les corps, ça se voit et ça s'incarne dans des effets d'humiliation. En fait, c'est vraiment une révolte de gens qui ont été humiliés aussi par les petites phrases du président. Et donc, en fait, moi, quand je fais un film que je pense politique, en fait, c'est d'abord à travers l'humain. C'est vraiment, c'est eux qui sont à la base et c'est les affects, c'est leurs affects qui font qu'ils s'engagent et c'est les affects qui font qu'ils croient en quelque chose d'autre et c'est les affects qui font qu'au final, ils font de la politique.
Et des affects qui peuvent donc aussi s'exprimer sur les ronds-points.
Le lave, ta colère. Le lave, je l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour Benoît. Faut arrêter. Ouais. Benoît, c'est un fouteur de merde depuis le début. Vous dites qu'il était fatigué. Nous, hier soir, on est rentrés à 2h du matin. Je me suis levée à 6h30. Moi aussi, je suis maman, j'ai un handicap, j'ai 3 enfants à élever et je suis dans le même cas que tout le monde. Et non, moi, je suis gilet jaune et je viens quand même si c'est qu'une matinée ou une heure. Monsieur, il a toujours des excuses. Toujours. Il est jamais sur les péages.
Donc, je sais pas, essayez de vous approcher déjà. Parce que sinon, ça va être compliqué pour s'entendre. Et on n'est quand même pas des inconnus, on n'est pas des sauvages. Ce soir, tout le monde a bien compris que la réunion était importante. Moi, j'ai un ennemi. C'est le système et c'est ce président. ici, malgré les désaccords, malgré tout ce que vous pouvez penser, je n'ai aucun ennemi. Ça, c'est clair. Je tiens à le dire tout de suite. Donc maintenant, ceux qui veulent parler, ceux qui ont des choses à dire, voilà, venez.
Donc là, Emmanuel Gras, il y a une engueulade entre deux personnes des Gilets jaunes, parce que Benoît, qu'on entend, avait appelé à venir un dimanche matin très tôt, donc on entend des gens qui se sont organisés et ils n'étaient pas là. Est-ce que ce que vous montrez, donc vous l'expliquez, c'est aussi le début de la fin du mouvement, mais ce n'est pas aussi lié aux violences policières, on est d'accord, à plein d'autres raisons, mais aussi à la nature même de ce mouvement qui est horizontal, qui refuse donc une organisation, mais le revers de la médaille, c'est ça, c'est que personne n'est vraiment responsable d'organiser du coup des mouvements.
Oui, alors c'est vrai, tout à fait, c'est aussi l'épuisement, faut pas, parce que là on le voit en fait dans l'engueulade du début, elle dit qu'elle est épuisée, qu'elle-même est handicapée, qu'elle doit élever 3 enfants, enfin il y a eu vraiment cet aspect-là qui est très fort.
Des femmes, pas mal de femmes célibataires avec enfants.
Oui, tout à fait, parce qu'on voit que c'est vraiment elles qui subissent de plein fouet les difficultés sociales. Mais en tout cas, oui, il y a cette fatigue-là qui exacerbe en fait les tensions. Et en effet, sinon, moi, je ne voulais pas faire l'impasse sur le fait que, sur ces problèmes d'organisation interne, qui sont que Benoît était le porte-parole et en fait, finalement, qui se retrouve mis en question parce que le mouvement n'aboutit pas, mais aussi parce qu'en fait, quand il y a un représentant, il peut ne pas passer les bonnes informations. Enfin, tout se focalise contre lui. Donc, en fait, on retrouve à l'échelle locale ce qui peut être reproché à l'échelle nationale vis-à-vis des représentants politiques. Mais une des grandes tristesses par rapport à ce mouvement, c'est qu'il n'y a pas eu de lien ou de convergence, en fait, avec des organisations de type syndical qui auraient pu amener, en fait, leur organisation. Il n'y a pas eu cette convergence-là. D'une part, par un refus des Gilets jaunes, c'est vrai, et d'autre part, parce que en fait, ça a mis du temps en fait, à se comprendre, pour les syndicats, à comprendre qu'en fait, cette révolte Gilets jaunes n'était pas finalement différente de eux, qu'en fait, ils défendaient les mêmes choses.
Mais du coup, parce que le mouvement n'a pas vraiment abouti, mais est-ce que eux, ça les a transformés ? Parce qu'on imagine que, par exemple, la petite phrase d'Emmanuel Macron sur « moi, j'ai envie d'emmerder les antivax », etc., c'est des phrases qu'eux prennent de plein fouet. Mais est-ce que cette expérience de démocratie, est-ce que ça a créé quelque chose qui, par exemple, aurait échappé aux médias ou...
Oui, alors, en effet, c'est vrai qu'il n'a pas abouti, disons, à quelque chose de concret. Mais par contre, il a changé, pour moi, radicalement, les choses en France. C'est que, d'une part, c'était la première fois en fait, qu'un mouvement social était offensif, au sens où il demandait des nouveaux droits. Jusque-là, ça faisait des dizaines d'années qu'en fait, tous les mouvements étaient en réaction à une réforme, à la réforme des retraites, à la réforme de la loi travail. En fait, étaient là pour protéger des acquis sociaux et pas pour demander quelque chose en plus. Là, il y a eu vraiment, et c'est peut-être parce que c'était hors cadre, en fait, justement, qu'ils ont osé aller plus loin.
Une forme de créativité.
Une forme presque. De tout à fait. Et pour tous ces gens-là, qui étaient des gens qui avaient été habitués à subir, en fait, tout d'un coup, ils ont repris de la force. C'est ce dont parlait Agnès au début, quand elle disait, en fait, j'avais honte, et en fait, maintenant, on est ensemble, et on est puissant. Elle ne parle pas uniquement de la honte qui est perdue, elle parle aussi de la puissance retrouvée. Et ça, c'est quelque chose qui est un acquis pour eux. Je le vois, Agnès, Nathalie, Alain, ma compagne, dans toutes les avant-premières. Et en fait, quand je les entends, je vois bien qu'en fait, ils ont vraiment, même dans leur posture, en fait, dans leur manière de parler, ils ont une affirmation d'eux-mêmes qui est beaucoup plus forte que quand je les ai rencontrés. Et c'est la grande force de la lutte collective. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des échecs au sens où on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Mais en même temps, les demandes étaient, puisqu'il y avait la destitution de M. Macron, en fait, on savait qu'on ne l'aurait pas. Mais par contre, le fait, c'est le chemin parcouru en fait, qui est important. C'est la transformation dans le chemin et le fait de retrouver de la dignité dans la lutte. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se perdre. Et là, ce que vous avez dit sur la nouvelle petite phrase du président sur le fait d'emmerder une partie de la population, c'est sûr qu'eux les ressentent comme étant directement dirigés contre eux.
Et je crois qu'à la fin, c'est Alan qui parle du mouvement qui vit et progresse et qui annonce presque un peu prophétique des nouvelles grosses catastrophes sociales à venir.
Oui.
Il y a un aspect où effectivement presque d'expression très sensible des personnes en prise vraiment avec la réalité, évidemment, la plus brûlante, même si vous avez enregistré cette séquence, j'imagine, il y a longtemps.
Il y a 3 ans. Oui, Alan, en fait, il faut préciser qu'Alan, c'est quelqu'un qui est plus jeune. C'est un mouvement, on a beaucoup dit que c'était un mouvement un peu de retraité, de quadra, de quinca. Alan, lui, il a, je sais plus, il doit avoir 27 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, lui, c'est vraiment la cause écologique. Alors, ça peut paraître un peu éloigné des Gilets jaunes, mais en réalité, c'est ce que je disais sur le fait que ça englobait tout, en fait. Et lui, il est dans le film parce que c'est un personnage qui est vraiment hyper attachant, mais aussi parce que, en fait, il incarne les jeunes. Ça s'est retrouvé ensuite avec Extinction Rebellion, qui voit bien qu'en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on va dans une marche forcée avec la croissance, avec l'économie libérale, qui amène à des catastrophes. Et donc là, lui, à la fin, c'est vrai qu'il est assez désespéré. Il a repris un peu des forces depuis, mais la fin du film, elle dit qu'en fait, tout peut réapparaître tant qu'on ne change pas les donnes, en fait, les donnes du système.
Merci Emmanuel Grave. Vous restez encore un peu avec nous, le temps de feuilleter avec Elisabeth le journal du cinéma de la semaine, juste après ce titre, On My Way de Léna. When will this all disappear? I feel the danger is near. I hear footsteps by my door. On My Way de Léna, le choix musical de Fanny Renard. C'est l'heure du journal du cinéma avec vous, Elisabeth, et on commence bien évidemment par la cérémonie des Césars qui se tenait hier soir.
Et le César est attribué à Illusion perdue.
Et oui, Sophie, c'était le grand favori de ces 47e César. Sans surprise, Illusion perdue de Xavier Giannoli rafle 7 trophées, dont le plus prestigieux, celui du meilleur film. C'est un véritable plébiscite pour cette adaptation acérée de Balzac, fresque acide sur la presse et ses dérives. L'autre favori, l'opéra rock Annette, repart avec 5 récompenses, dont celle du meilleur réalisateur pour Léo Scarrax.
Quand je suis honoré de remettre le César de la meilleure actrice à, si j'arrive à l'ouvrir, Valérie Le Mercier.
Valérie Le Mercier, actrice, mais aussi réalisatrice d'Aline, vrai faux biopic de Céline Dion. Valérie Le Mercier, on l'écoute.
Mère Grand, c'est comme ça que j'appelle ma mère. Mère Grand, je sais qu'à cette heure-là, tu dors. Je sais aussi que tu ne regardes quasiment jamais la télévision, sauf parfois l'après-midi, une émission de vente aux enchères animée par Sophie Davant, qui s'appelle « Affaires conclues », dans laquelle j'ai peu de chances de passer pour revendre cet objet. Voilà, Mère Grand, je te remercie de t'être déplacée avec tes tout petits pas pour aller au cinéma, voir Aline. Pour la première fois de ta vie, tu m'as aimée dans un film. Et donc c'est très important. Et surtout tu me l'as dit dans un message que je garderai toujours. Et je voudrais vous dire que ce jour aujourd'hui, je me souviens au Québec, mais moi je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'espère que j'aurai autant de chance avec mon prochain film sur l'histoire de Martine Aubry. Merci beaucoup.
Valérie Lemercier, donc César de la meilleure actrice, tandis que Benoît Magimel, lui, rafle le César du meilleur acteur pour son rôle de quadragénaire condamné par un cancer dans De son vivant d'Emmanuel Berco. Sinon, Sophie, que retiendra-t-on de la cérémonie cette année? Sans doute les larmes de Cate Blanchett, recevant larmes d'émotion, hein, puisqu'elle recevait son César d'honneur des mains d'Isabelle Huppert, celle de Xavier Dolan, évoquant son ami disparu, Gaspard Ulliel. Pour le reste, beaucoup d'ennuis pour une cérémonie longuissime et languissante, à peine revitalisée par un mini-concert des Sparks.
Les Césars sont passés, Elisabeth, place maintenant aux Oscars.
Oui, être plus dynamique et plus attractif, c'est aussi le mantra des Oscars. Et pour ça, comment faire? Eh bien, les organisateurs de cette 94e édition viennent de l'annoncer. Au placard, les prix techniques pour donner plus de place aux numéros musicaux et humoristiques. Alors, quand je dis au placard, j'exagère un peu. En fait, il s'agit de pré-enregistrer la remise des trophées techniques, donc son, décor, court-métrage, documentaire, et de les diffuser avant la cérémonie. Il faut dire, Sophie, que les audiences sont en chute libre, moins 56% en un an. La dernière cérémonie a attiré à peine 10 millions de téléspectateurs.
Ladies and gentlemen, please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle.
You must meet Hercule Poirot.
My congratulations, madame.
Merci.
He's only the greatest detective alive.
I suspect you invited me for reasons other than the fun.
Le film américain Mort sur le Nil, retiré des salles de cinéma en Tunisie après des protestations de militants pro-palestiniens. Pourquoi, Elisabeth?
Eh bien parce que l'actrice principale de cette adaptation d'Agatha Christie n'est autre que Gal Gadot, ou peut-être dit-on Gadot, je ne sais pas. En tout cas, actrice israélienne qui avait défendu de façon très virulente en 2014 sur sa page Facebook l'offensive menée par Israël contre la bande de Gaza. Donc à signaler aussi, Mort sur le Nil a été interdit pour les mêmes raisons au Koweït et au Liban.
Tous les cinémas du monde.
Tous les cinémas du monde.
Et pendant ce temps-là, à Dakar, Elisabeth, le festival Film Femmes Afrique vient d'ouvrir ses portes.
Oui, c'est un festival qu'on aime bien suivre avec ses 62 films sélectionnés cette année, dont un focus Sénégal de 6 films et un hommage rendu à la pionnière Safi Faye avec Lettres paysannes, sans oublier des ateliers, des masterclass consacrés à deux métiers du cinéma, script et décoratrice. Alors on en parle au féminin, bien sûr, puisque le festival, depuis sa création en 2016, c'est un festival biennal, c'est tous les deux ans. Donc ce festival entend mettre en valeur le travail des femmes dans le cinéma africain. On en parle avec Martine Ndiaye, la présidente et cofondatrice du festival.
Allô?
Martine Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'était compliqué, sachant que le festival se déroule tous les deux ans, donc la précédente édition s'est déroulée sans problème, c'était juste avant l'irruption dans le paysage mondial de l'épidémie. Là, c'était plus difficile que d'habitude, par exemple, d'organiser des projections compte tenu des contraintes sanitaires, d'avoir des salles de cinéma, et je parle de Dakar, mais c'est un festival qui va au-delà de la capitale.
Bien. Nous n'avons pas eu de problème particulier pour préparer le festival. Nous le préparons depuis plus d'un an en fermant un petit peu les yeux sur la pandémie, en se disant de toute manière on va faire ce festival. Nous allons beaucoup dans les lycées, donc les lycées sont ouverts et sont restés ouverts à Dakar. Nous faisons beaucoup de projections en plein air, ce qui facilite en fait les projections.
Alors, vous avez sélectionné cette année, Martine Ndiaye, 62 films, courts et longs métrages, documentaires et fictions confondus. Vous ferez une soirée d'hommage à Safi Faye. Vous allez projeter aussi un film, Kodou, d'Ababacar Sambakaram, donc deux pionniers du cinéma sénégalais. C'est important. Vous disiez tout à l'heure que vous faites beaucoup de projections dans les lycées. Est-ce que c'est important, justement, pour les jeunes générations de voir ces images d'un Sénégal qu'ils n'ont pas connu?
Oui, pour nous, c'est très important parce que il faut, dans la culture, il faut quand même voir ce qui s'est passé avant. Il faut voir qu'avant, le cinéma au Sénégal marchait très très bien, puisqu'il y avait plus de 60 salles de cinéma à Dakar, alors que maintenant, actuellement, il n'y en a plus que 2-3.
Il y a un appétit énorme de cinéma au Sénégal ?
Non, je dois dire qu'il y a un appétit énorme pour les séries. Mais pour le cinéma, peut-être pas tellement.
Mais il y a quand même un appétit pour faire les films. Enfin, on voit que partout en Afrique, et à commencer par l'Afrique de l'Ouest, et à commencer par le Sénégal, avec l'ouverture il y a peu de l'école créée par l'Adjli, Courtrajmé, il y a un appétit énorme de faire des films.
Énorme, l'appétit est énorme, comme vous le dites.
Mais peut-être pas de les voir, c'est ça.
Dès qu'il y a une formation, puisque nous, dans le cadre du festival, on fait une formation, dès qu'il y a une formation, on lance l'appel à la formation, formation rapide pour 15 personnes, et aussitôt, en moins de 24 heures, on a 40-60 candidates.
Vous faisiez allusion, j'imagine, à cette formation intensive pour les femmes, hein, au métier du cinéma. Kino Linguère, je le prononce peut-être très mal.
Kinolinger, oui.
Kinolinger, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, le Kinolinger se fait en ce moment. Il a commencé avec 14 femmes, des jeunes et des moins jeunes, il y a tout âge. Et il est fait par des professionnels du cinéma. Donc, il y a des cours, enfin des enseignements sur l'écriture de scénarios, sur les scénarios. Mais aussi sur les différents métiers du cinéma pendant une semaine. Et ensuite, deux petits courts-métrages sont déjà sélectionnés et vont être tournés en 2 jours. Et ils passeront le jour de la clôture du festival.
Martine Diaye, merci beaucoup. Je rappelle que votre festival Film Femmes Afrique se tient à Dakar et dans d'autres villes du Sénégal jusqu'au 12 mars. C'est quoi, par curiosité, le film de clôture ?
Le film de clôture, c'est Grand-mère 19 et Le secret du soviétique, qui est un très beau film qui se passe en Afrique australe. Et j'appelle tout le monde à venir le voir.
Merci beaucoup Martine Diaye. Et bon festival.
Merci beaucoup.
Termine notre émission à Bangui. La capitale centrafricaine deviendrait-elle un passage obligé pour le cinéma de propagande russe ? Fin janvier, le film Granit était présenté au public centrafricain dans la grande salle du stade Omnisport. Granit raconte l'histoire des mercenaires russes de la société militaire privée Wagner, donc des mercenaires qui ont combattu jusqu'en 2019 aux côtés des forces mozambicaines contre l'insurrection islamiste au Cabo Delgado. La société mercenaire, je le rappelle, est accusée de graves violations des droits de l'homme contre les civils et elle n'a pas d'existence légale et pourtant elle opère en Libye, au Soudan, en Syrie et en Ukraine, selon les spécialistes. Wagner déploie parallèlement à ses activités militaires des opérations de propagande qui passent notamment par des productions cinématographiques entretenant le flou entre fiction et réalité pour justifier ses interventions. Alors, écoutez ce reportage à Bangui, un reportage tourné lors de la projection du film Granit avec les réactions de spectateurs centrafricains.
Gros calibre, en poignade, en pleine jungle, tous les ingrédients d'un blockbuster défilent à l'écran. À la différence que les héros ne sont pas américains mais russes et que l'action se déroule au Mozambique. Granit, c'est le titre du film, raconte le combat des hommes de la société militaire privée Wagner contre l'insurrection islamiste au Cabo Delgado.
Grâce aux instructeurs russes qui sont venus et ils ont porté main forte au pays, donc c'est ce qui m'a motivé d'amener les enfants aussi, afin qu'on puisse partager ensemble, parce que ça fait partie de l'histoire de notre pays.
Une histoire familière pour le public centrafricain. L'an passé, les mercenaires ont aidé l'armée nationale à repousser l'attaque des rebelles qui menaçaient la capitale, Bangui.
Je suis Wagner parce que Wagner, ça empêchait les rébellions et maintenant ça empêche tous les acteurs criminels. Mais ça me donne beaucoup plaisir.
Une histoire déjà racontée dans Touriste, le premier film d'action russe produit en RCA. À ceci près que l'intrigue fait l'impasse sur les graves violations des droits de l'homme dont sont accusés les Russes. Disparitions forcées, tortures, exécutions sommaires, des exactions pourtant largement documentées, notamment par l'ONU.
Ceux qui veulent accuser les Russes, soit disant que ce sont les Russes qui font des exactions, tout ça, là, non. Ils ont vu le film et c'est une réalité. Ceux qui pensent négativement sur les Russes, qu'ils puissent rejeter cette pensée-là.
Dans le film, pas de mauvaise pensée. Les Russes sont présentés comme les libérateurs de la Centrafrique.
Les Américains se battent pour la démocratie et nous pour l'équité.
Jack Margolin, expert en financement des conflits pour le think tank C4ADS.
Sur beaucoup d'aspects, ça ressemble à un téléfilm d'action russe assez standard, mais son objectif principal est de promouvoir et d'expliquer ce que faisaient les mercenaires russes au Mozambique. Dans le même temps, le film s'inscrit dans une série d'histoires racontées dans ces films de propagande. On y retrouve les discours entendus de la bouche de certains officiels ou de personnes liées aux activités militaires privées pour justifier ce qu'elles font et pourquoi elles opèrent en Afrique. Quels sont les intérêts de la Russie dans ces pays et ce que font les mercenaires pour aider les gens sur le terrain.
How they're actually helping people on the ground.
Les Russes savent combattre et malheureusement ils le font bien.
Leur succès s'explique aussi par l'inexistence d'industrie cinématographique en RCA, déplore Prince Koyekbele, directeur national du cinéma au ministère de la Communication.
Malheureusement, nous sommes dans un pays où le cinéma est au stade embryonnaire. Le cinéma est complètement désorganisé.
Et même quand on se promène à Bangui, moi j'ai pas vu de cinéma.
Avant ça existait.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il n'y avait plus de rendement dans ce secteur-là. Et donc les églises ont envahi toutes ces salles de cinéma.
Pour le jeune acteur Wilfried Williams, alias Bastak, qui rêve d'une carrière internationale, l'opportunité semble trop belle lorsqu'on lui propose de jouer le chef rebelle dans Touriste.
Tuez, volez, massacrez.
Mais il est bien loin d'imaginer les conséquences.
J'avais reçu des menaces, comme quoi je suis pro-russe, comme quoi je suis anti-français. Non, non. Moi, je ne vois aucunement dans ça. Moi, je n'ai jamais fait la politique, je ne suis pas politique, je suis qu'un artiste. C'est juste un rôle que moi j'ai joué. J'ai rien à voir avec la politique, je ne connais même pas la politique.
Tandis qu'en province, l'armée centrafricaine et ses alliés russes combattent encore les rebelles. Réalité, fiction et propagande s'entremêlent. Touriste et Granit sont produits par une société détenue par l'homme d'affaires russe Yevgeny Prigojine, un proche de Vladimir Poutine, placé sous sanction du Trésor américain et suspecté d'être le financier du groupe Wagner. L'intéressé réfute ces accusations, mais à Bangui circulent des tracts portant son nom. Impossible en tout cas de ne pas reconnaître à l'écran les véhicules blindés couleur sable qui traversent régulièrement la capitale, ou encore ces hommes blancs, sans aucune insigne, les armes en main, le visage systématiquement masqué. En décembre, lors de la fête nationale, le président de la République en personne inaugure un monument grandeur nature. On peut y reconnaître certains personnages de touristes.
Voilà, c'était un reportage à Bangui de notre correspondant. On se quitte en musique avec ce titre Bialovisa du groupe El Buho avec la participation de Soutari. Ainsi s'achèvent tous les cinémas du monde. Merci Emmanuel Gras.
Merci à vous.
Je rappelle donc Un peuple qui vient de sortir sur les écrans français. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Elisabeth, vous recevrez Alain Guiraudy à l'occasion d'une rétrospective que lui consacre la Cinémathèque française et la sortie de son nouveau film « Viens, je t'emmène ». Et d'ici là, bonne semaine à tous.